C'est un podcast Vivre FM. Romain, bonjour.
Bonjour.
Alors Romain, c'est votre vrai prénom et vous utilisez le surnom de Roro, le costaud Roro, et pourtant c'est aussi court que Romain.
C'est ça, et alors pourtant c'est un surnom que je détestais quand j'étais enfant.
Ah oui, on vous appelait Roro.
Ouais, c'est ça, et maintenant tout le monde m'appelle Roro.
Et alors, ça vous fait quoi?
Franchement, rien, parce que maintenant celui-là je l'ai choisi, c'est un pseudo que j'ai choisi, donc je me suis dit que quelque part c'était un pied de nez aussi à mon enfance, à me dire ouais, tiens, ça t'a toujours détesté, bah aujourd'hui bah non, aujourd'hui je l'assume complètement.
Oui. Et puis c'est pas courant en fait, Roro sur les réseaux sociaux, c'est pas trop courant, c'est plus facile que Romain à trouver.
Non, c'est sûr. Puis c'est Roro le costaud, c'est toute une histoire hein, derrière hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce pseudo, mais voilà, je sais pas si on en parle maintenant ou si on en parlera plus tard.
On en parle maintenant.
Eh ben on en parle maintenant. Bah alors Roro le costaud, pourquoi? Tout simplement parce que être costaud pour moi avant c'était, et pour beaucoup être costaud c'est être musclé, avoir des gros muscles apparents.
C'est ce que vous étiez très sportif avant l'accident.
Voilà, exactement, avant j'étais très sportif, un peu musclé, même si je ressemblais pas à un Apollon des magazines, mais j'étais musclé et en fait j'ai voulu faire ce clin d'œil à dire ben non, être costaud c'est pas que ça. Être costaud c'est aussi être costaud dans sa tête, être costaud dans ses choix de vie, d'assumer ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, et voilà. Et maintenant, oui, effectivement, je m'appelle Roro le costaud, mais pas pour mes biscottos.
Voilà. Parce que vous êtes fort dans votre tête.
Voilà, exactement.
Et vous le montrez donc sur les réseaux sociaux. Alors on va parler de votre livre, mais les réseaux sociaux c'est important aussi, ça vous a fait connaître. Alors Instagram, mais surtout TikTok, 1,3 million d'abonnés, c'est ça?
C'est ça. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé par Instagram. TikTok, c'est vraiment arrivé très très longtemps après, mais quasiment en fait au début du confinement, où il y a eu une explosion de visibilité sur cette plateforme, et c'est à ce moment-là en fait où j'ai connu une grosse ascension, voilà, qui après s'est régulée, et puis ça monte toujours doucement mais sûrement, mais c'est vrai que c'est surtout sur Instagram où je me suis fait connaître. Mais après TikTok c'est génial hein, c'est une plateforme où je pense où il y a plein de mauvaises choses, mais il y a plein de beaux messages à faire passer aussi. Et c'est pour ça que je prends un malin plaisir à les faire passer.
Oui. Alors, sur TikTok, ce sont des petites vidéos courtes, hein, c'est ça? Vous racontez quoi sur TikTok?
Bah, tout simplement, c'est des vidéos humoristiques où je dédramatise le handicap, où je fais beaucoup d'autodérision sur mon handicap, sur les petites expressions du quotidien. Et puis j'aime bien aussi parler un peu plus sérieusement. Alors, d'une manière humoristique, parce que sinon ça intéresserait pas les gens et les plus jeunes qui sont sur ces plateformes, mais de manière humoristique, je pense j'essaye d'aborder tous les petits points, toutes les questions en fait que les gens se posent sur ce handicap et qui peuvent parfois paraître tabous, et j'aime bien en fait sensibiliser comme ça les gens et les amener à réfléchir et à se demander ce que c'est que le handicap.
Oui, alors j'avais retenu plusieurs vidéos, il y en a une, c'est comment je fais pour me torcher.
Oui, alors ça, c'est typiquement le genre de questions qui sont complètement improbables et que...
Qu'on n'ose pas demander, on se pose la question, mais on n'ose pas demander.
Oui, alors on n'ose pas, et puis très honnêtement, je vais pas répondre à ce genre de questions, donc là je réponds en rigolant, parce que ça me paraît tellement improbable que, comme tout le monde, quoi. Alors, autant il y a des questions techniques sur lesquelles je peux comprendre, mais là on est un peu dans les dérives des réseaux sociaux, c'est-à-dire à vouloir être un peu trop intrusif et à se permettre de poser des questions qu'on ne poserait pas en vrai, en fait, tout simplement.
Mais vous avez des questions intrusives comme ça, ça arrive?
Mais beaucoup, il y en a beaucoup, mais oui, mais bien sûr.
Mais c'est posé par qui?
Et comment on va? Oh, mais alors, il n'y a pas d'âge, hein, par contre, hein, pour le coup, il y a des jeunes, mais il y a des beaucoup moins jeunes, il y a de tout, hein, de tout, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas une catégorie de gens, c'est vraiment c'est les réseaux sociaux. On se cache derrière un pseudo, derrière une photo inexistante, et du coup on se permet des choses qu'on se permettrait pas dans la réalité.
Oui. Voilà. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez vraiment votre vie quotidienne. Et là, sur cette vidéo particulièrement, c'est fait de manière humoristique. C'est très bien fait. Vous expliquez comment vous allez aux toilettes.
Oui, c'est ça. En fait. À la fois, j'ai pas envie de répondre à comment je fais pour m'essuyer aux toilettes. D'un autre côté, ça me permet de montrer quand même que il y a un fauteuil qui existe pour aller aux toilettes. Il y a un fauteuil qui me sert à me doucher aussi, qui n'est pas mon fauteuil de tous les jours, et qu'effectivement, c'est grâce à lui que je vais aux toilettes, même si je vais pas expliquer techniquement de A à Z comment je fais pour aller aux toilettes. Mais ça me permet quand même de montrer aux gens ce qui se fait. Voilà. Oui. Et effectivement, en le faisant de manière humoristique,
c'est bien fait. C'était drôle. Ça m'a fait rire. Voilà, je vous le dis. Et puis plein d'autres vidéos comme ça, vous moquez aussi beaucoup de vous-même.
Oui, c'est important parce que pour moi, ne pas rire du handicap, c'est le stigmatiser. Ça, c'est la première chose. Et je me dis, qui de mieux placé qu'une personne en situation de handicap pour rire du handicap? Personne. Et il y en a qui le font très bien. Il y a des humoristes qui le font très bien. Attention, c'est un humour qui est très, très difficile aussi. Mais je me dis, si moi, je ne le fais pas, qui le fera? Et je pense que le message passe encore plus, de manière encore plus intense et peut-être de manière plus efficace, puisque c'est de moi que je rigole.
Oui, oui. Mais justement, avec cet humour, en vous moquant de vous-même, ça permet de relativiser. C'est en fait, il y a quel objectif ?
Ben, y a ça aussi, effectivement. De toute façon, l'humour a toujours fait partie de ma vie, même avant mon accident. Mais très honnêtement, oui, évidemment que c'est une manière aussi d'accepter et effectivement de rire parfois de situations qui peuvent être un peu cocasses ou compliquées qu'on rencontre au quotidien. Ça permet aussi de mieux les vivre parce que cette situation elle arrive, cette difficulté elle peut arriver, mais finalement est-ce que de faire la tronche, d'en parler sans cesse ou de vous faire la gueule tout simplement, est-ce que ça va améliorer ou apporter une solution? Absolument pas. Donc autant en rire.
Oui, oui, et puis on va pas avoir envie de vous voir et d'écouter vos messages s'il n'y a pas de légèreté. Enfin, si...
Après, je pense que tous les messages, il y a des messages humoristiques, il y a des messages qui sont sérieux. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Maintenant, c'est sûr que l'humour, c'est une manière aussi d'amener les gens à soi, à se dire tiens, c'est drôle ce qu'il a raconté sur le handicap, c'est peut-être pas commun. Et puis derrière, se rendre compte que ah, attends, il y a quand même un fond, il y a un problème de fond aussi, il dénonce quelque chose et peut-être que comme ça amène les gens à réfléchir un petit peu plus. Ouais.
Oui, oui. Et alors ces vidéos, vous les faites parfois seules, parfois avec des amis, alors souvent parfois avec votre fille et surtout votre mère, ouais. Votre mère qui se prend vraiment au jeu. Hein. On a l'impression qu'elle se moque de vous, elle se moque du handicap, ouais. et c'est drôle, ça passe très bien.
Oui, c'est excellent. En fait, tout a commencé un jour où on s'est dit, tiens, on fait une vidéo. Est-ce que ça dit qu'on fasse une vidéo ensemble ? Elle m'a dit, bah, y a pas de problème. Je lui ai dit, écoute, voilà, le scénario, il est celui-là, on se lance. On s'est lancé, les gens ont adoré. Et ma maman a adoré aussi. Moi,
oui,
j'ai adoré le faire avec elle.
On sent qu'elle prend plaisir à le faire.
Ah ouais, elle marque complètement. Vous savez que je me fais engueuler.
C'est vrai.
Quand maintenant, le dimanche, elle me dit, mais on n'a pas une petite vidéo à tourner. Je dis, non, attends, là j'ai pas encore eu le temps. Cette semaine, j'étais occupé, j'ai pas pensé. Et c'est vrai que même des fois, c'est elle qui me dit, ah tiens, on pourrait faire une vidéo rigolote là-dessus. Donc ouais, elle s'est prise au jeu. Et je trouve ça génial de partager ce moment avec elle. Donc c'est un vrai plaisir. Je pars du principe qu'à partir du moment où on prend plaisir à faire quelque chose, il faut le faire, il faut foncer.
Oui, oui. Et alors toutes ces vidéos, elles amènent du monde qui ne connaît pas forcément le handicap. Est-ce que vous vous rendez compte depuis le temps que vous faites, vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous voyez une évolution? Vous avez l'impression de faire progresser les gens?
Alors après, moi au niveau, j'ai envie de dire au niveau national ou autre, je ne sais pas. Même si effectivement j'ai un public qui est de toute la France et pays francophones. Mais oui. Dans les échanges que je peux avoir avec certains abonnés, dans les commentaires que je lis surtout, j'ai l'impression que certains ont bien évolué, ouais, certains ont bien changé et on me le dit souvent et ça fait plaisir à lire. Ça fait plaisir à lire puisque c'est un peu le but de tout ça aussi quand même.
Oui.
Donc toucher ces personnes et c'est chouette.
Oui. Oui. Alors justement, de manière plus générale, lorsque vous êtes dans la rue avec votre fauteuil ou lorsque vous allez faire des courses ou je ne sais pas, comment les gens réagissent à votre fauteuil?
Alors, il faut savoir qu'avant, les gens qui me voyaient, effectivement, voyaient une personne en situation de handicap, peut-être parfois avec ma fille, qui était toute petite. Et moi, les regards que je voyais tournés vers nous, moi, je n'y faisais plus attention, parce que je n'ai jamais fait très attention au regard des autres. Ma fille était un peu plus interloquée, elle me disait, mais pourquoi ils nous regardent les gens, papa? Alors, je lui expliquais, je disais, mais tu sais, les gens n'ont peut-être pas l'habitude de voir un papa en fauteuil roulant avec sa fille de 3 ans qui tient le fauteuil comme elle tiendrait un caddie, peut-être. Mais je dis, il faut vraiment que tu ne vois pas ça méchamment. Les gens nous regardent, mais c'est, regarde les gens, ils ont le sourire. Ils ne sont pas en train de nous juger, ils ont juste un sourire, ils sont heureux de voir ça. Et j'ai toujours eu cette vision-là pour moi des gens, parce que j'estime que les gens nous regardent tel que ce qu'on veut être, tel que on dégage quelque chose et les gens le voient. Et j'ai toujours à cœur moi d'avoir le sourire ou d'être un peu joyeux dans la rue ou quand je me balade, parce que je pense que les gens le ressentent et les gens ont envie de vous retranscrire la même chose. Maintenant, le regard, il est un peu différent. C'est-à-dire que souvent, on me reconnaît, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avoir une visibilité sur Internet, forcément, que ce soit des enfants, des adultes, les gens nous reconnaissent. Donc,
oui.
Le regard a un peu changé. Et du coup, c'est marrant. Mais moi, pour le coup, maintenant, je fuis peut-être un peu plus le regard.
Vous vous sentez observé des fois, c'est ça, mais d'une manière différente.
Alors, observé d'une manière différente, voilà. Et après, il y a toujours ce regard et je me dis... Est-ce qu'ils m'ont reconnu? Est-ce qu'ils me regardent pour autre chose? On ne sait pas finalement. Et c'est vrai que maintenant, je le fuis pas. Attention, hein, je dis pas, je fuis le regard, je fuis pas le regard des gens. Mais c'est vrai que j'évite. Après, je suis ravi hein, quand quelqu'un m'arrête, me demande une photo, si ça arrive, me demande une photo ou qu'on discute un petit peu, c'est toujours avec plaisir. Mais c'est vrai qu'après, je vais pas le chercher non plus, quoi.
Oui. Mais quand même, ça peut être gênant dans sa vie de tous les jours. On est fatigué, on est pressé, on n'a pas envie de parler. Et puis là, on est obligé.
Non, alors, moi, je ne le vis pas comme ça. Les gens, en plus, sont vraiment très bienveillants. Enfin, j'ai pas une communauté très désagréable. Bien au contraire, j'ai une communauté plutôt bienveillante. Et c'est vrai qu'au quotidien, et j'ai envie de dire, après, on sait ce qu'on fait. Hein, on s'expose sur les réseaux sociaux. On a du monde, on a beaucoup d'abonnés. Au bout d'un moment, c'est normal que les gens nous reconnaissent. Donc après, il faut comprendre aussi que les gens sont très très contents de vous voir en vrai. Peut-être que moi, c'est pareil. Si demain, je rencontre quelqu'un dans la rue que j'admire ou que j'aime bien, peut-être que je vais oser aller lui demander tiens, une petite photo ou discuter avec lui. Donc ben voilà, je le comprends pas toujours, dans le sens où je comprends pas toujours qu'on ait envie de faire ça avec moi. Maintenant, je le conçois de la part des gens et je réponds positivement quand je peux le faire.
Oui, oui. Et ça arrive souvent qu'on vous reconnaisse ? C'est une fois
ouais,
par
souvent.
Semaine ? C'est
non,
tous
non,
les
c'est
jours ?
Oui, ouais, c'est souvent. Ouais. Si je sors dans la rue, dans les magasins, oui, c'est souvent.
Oui.
Ouais. Si, ouais.
Oui.
Maintenant, c'est régulier.
D'accord, très bien. Et alors, est-ce que vous suivez vous-même d'autres personnes qui sensibilisent comme vous au handicap, qui ont un handicap visible ?
Oui, 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 il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup de personnes. Alors après, je ne suis pas que des personnes en situation de handicap, mais
bien
oui,
sûr.
J'en ai avec des handicaps qui sont visibles, des handicaps qui sont invisibles. Mais bien sûr, ouais, bien sûr, parce que je pense que déjà, d'une, c'est génial. Plus on sera nombreux, plus on aura de visibilité. Et je trouve ça très bien qu'on puisse nous voir sur les réseaux sociaux, qu'on commence à nous voir à la télé, dans les films. Je trouve ça très bien que... Et j'espère que ça va se démocratiser.
Oui.
Qu'au lieu d'avoir un acteur qu'on met dans un fauteuil roulant, mais qu'on prenne un acteur en fauteuil roulant, parce qu'il y en a. Et il y en a qui sont prêts à le faire avec grand plaisir. Et j'aimerais qu'on y arrive. Alors, ça commence à arriver. Et voilà, et même dans les émissions de télé, c'est chouette. On commence à avoir des chroniqueurs en situation de handicap. Et c'est très bien,
oui.
Il faut que ça se fasse.
Alors vous êtes en fauteuil depuis 10 ans, c'est assez oui. Récent. Vous voyez quand même une évolution positive ou négative en France ?
Alors moi, oui, ça fait déjà 10 ans. Il y a eu une évolution. Après, j'ai envie de dire, c'est mieux qu'il y a 10 ans. Et ça sera moins bien, je l'espère, que dans 10 ans. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire.
Choses, oui.
Voilà, il y a une fameuse loi du handicap, la loi 2005... J'en parle un peu dans le livre, mais il y a la fameuse loi du handicap qui est sortie en 2005, qui avait 10 ans pour être mise en place. Et quand les autorités sont arrivées à quelques années, enfin quelques mois avant la fin des 10 ans, on a dit, bon, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour que tous les lieux soient accessibles, tous les lieux publics soient accessibles. Et du coup, on a dit, tiens, on va reculer la date. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui... On est bientôt 20 ans après cette fameuse loi et il n'y a toujours rien, il n'y a toujours pas de date,
oui.
Malheureusement.
Oui. Alors dans votre livre, oui. Roro le costaud et pourtant ça roule aux éditions du Rocher, il y a un petit passage qui m'avait surpris. 5 choses que vous ne voulez plus entendre.
Oui.
Alors quelles sont-elles et pourquoi ?
Alors il y a notamment le bon courage qui est très drôle. Le bon courage c'est vraiment une des choses les plus drôles que je... Parce que avant, quand on disait au revoir à quelqu'un, on dit au revoir, allez, salut, à bientôt, voilà. Et là, maintenant, il y a toujours bon courage.
Oui,
tous les gens nous disent bon courage. Alors, ce que je dis du courage, j'en ai à revendre. Hein. Je peux vous dire avec tout ce que j'ai. Mais
non, en fait, vous préféreriez qu'on vous dise au revoir tout simplement comme
non,
à quelqu'un d'autre.
Non, après, attention, quand je dis ça, c'est pas méchant.
Oui,
je le prends vraiment sur le ton de la rigolade. Mais c'est dans le sens où je ne comprends pas pourquoi moi, en fauteuil, on me dit plus bon courage à moi qu'à quelqu'un d'autre, finalement. Il y a des gens autrement qu'en situation de handicap qui ont besoin de beaucoup plus de courage que nous pour leur journée ou pour leur vie, quoi.
Oui. Voilà.
Ça, c'est vraiment la phrase
C'est... Oui, oui.
C'est la phrase.
Et il y en a d'autres comme ça, une ou deux, qu'on peut citer ?
Bah, moi, c'est vraiment celle-là. Après, il y en a d'autres. Hein. Y a quoi... Et est-ce que c'est à vie, par exemple ? On pose souvent la question.
Mais ça, c'est débile.
Ça fait dire. Oui, ou alors, c'est est-ce que je vais remarcher ? Voilà, là, oui. On pose très souvent la question, est-ce que tu vas remarcher ? Bon, écoute, ça fait 10 ans. Alors, normalement, normalement, je ne me trompe pas en disant que normalement, non. À moins que la science, d'ici là, ait fait des progrès incroyables. Mais non, 10 ans, ça commence à faire long pour... Ça commence à faire long pour m'être reposé.
Mais
donc
ça, ce
non,
sont des adultes que... qui peuvent vous poser ce genre
ouais,
de questions.
Oui, adultes, enfants, il y a tout. Ouais, y a vraiment ouais. Tous les âges. Il hein. n'y a pas de... Y a pas, j'ai envie de dire, une question d'enfant, c'est jamais une question bête. Je réponds à toutes les questions d'enfants, parce que ça me paraît important de le faire, parce qu'eux, ils ont des questions, et ils posent les questions avec beaucoup de franchise, de sincérité, et vraiment sans arrière-pensée.
Oui.
Et je pense qu'un enfant, c'est important de lui répondre, même si avec des mots simples. Mais voilà, et pour le coup, pour un enfant, je pense pas qu'il y ait de questions bêtes, non.
Oui, donc il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. En tout cas, Roro le costaud et pourtant ça roule, édition du Rocher. On peut retrouver toutes ces informations dans votre livre. Roro, vous restez avec nous, on fait une pause et puis on continue à parler, on va découvrir votre parcours.
Vivre FM, la radio de toutes les différences.
Non, c'est pas grave, frelon, c'est pas grave, on vous croyait inséparable, tout le monde est passé par là, dans les parages, bonheur ne montrera jamais, jamais son vrai visage, fausse vérité, vrai mensonge, mirage, il te traite comme un animal, si t'es pas né du bon côté du rivage, fuck, je veux plus m'asseoir à leur table tant que j'ai ton corps dans mon paysage. C'est pas grave.
Non, c'est pas grave, j'suis passé par là. C'est pas grave, si t'as le cœur irréparable. C'est pas grave, te quiero. Non, j'rigole, je ne t'aime plus. Je mène une vie superflue. J'leur mes crochets hypercute sur une instru déjà vue. Chercheur d'or, cherche à tromper la mort. Qui de nous deux est plus fort? On ne s'est jamais mis d'accord.
Non, c'est pas grave, frelon, c'est pas grave. On vous croyait inséparable. Tout le monde est passé par là, dans les parages. Bonheur ne montrera jamais, jamais son vrai visage. Fausse vérité, vrai mensonge, mirage. Il te traite comme un animal. Si t'es pas né du bon côté du rivage, fuck, je veux plus m'asseoir à leur table tant que j'ai ton corps dans mon paysage. C'est pas grave.
Non,
c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, j'suis passé par là. C'est pas grave, si t'as le cœur irréparable.
Non,
c'est pas grave.
C'est pas grave, Colombine sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Et pourtant ça roule, c'est le livre de Roro le costaud aux éditions du Rocher dans lequel il raconte son histoire, son parcours. Il a eu un accident de ski en 2012, il s'est retrouvé tétraplégique donc en fauteuil et puis il y a eu une longue période de rééducation. Romain, donc cette rééducation, elle a été longue. Comment vous avez tenu le coup, vous? D'un jour à l'autre, vous tombez tétraplégique, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger quasiment. Comment mentalement on tient le coup ?
Alors mentalement, moi j'ai tenu le coup. Dès le départ, en fait, je me suis mis un coup de pied aux fesses, hein, même si je pouvais plus bouger le pied. Mais ce coup de pied aux fesses, je me le suis mis grâce à la future naissance de ma fille, parce que je savais que ma fille allait naître, parce que quand j'ai eu mon accident, je savais que j'allais être papa. Voilà, ça, j'ai eu l'accident, elle était, ma compagne était enceinte de 2 mois et demi. Et à ce moment-là, je sais que j'ai une petite fille. Enfin, j'ai un bébé à l'époque, je ne sais pas encore que ça va être une petite fille, mais j'ai un bébé qui va naître et qui, lui, s'en fout complètement que son père soit en fauteuil. Lui, cet enfant, il a besoin d'un père, d'une mère, il a besoin de parents. Et à ce moment-là, je me dis, ben, je dois être là, je dois être présent à ce moment-là. Donc, t'as pas le temps de te laisser abattre. Va falloir faire une rééducation rapide, parce qu'effectivement, ma rééducation a été à la fois longue. Peut-être de l'extérieur, elle paraît longue quand on parle en mois, en années, mais finalement, j'ai eu une rééducation très très rapide par rapport à.
Étiez très sportif et vous aviez vraiment envie de bouger. Vous faisiez beaucoup d'efforts sur cette rééducation.
Oui, alors c'était dès le début. Hein, même à l'hôpital déjà, je voulais faire du sport tout de suite. Hein, j'ai dit non, mais. Faut que vous m'emmeniez des élastiques, je peux pas sortir de mon lit, mais emmenez-moi des élastiques, on va les attacher aux barreaux et puis je vais faire un peu de renforcement musculaire et en rééducation c'est pareil, j'ai demandé à ce qu'on me double les doses parce que bah, j'ai senti tout de suite que j'en avais besoin, que ça me faisait du bien, à mon corps, à mon esprit. Et puis c'était une manière aussi de passer le temps, parce que le temps est long en rééducation quand on n'est pas en activité.
Et alors vous racontez dans votre livre, et pourtant ça roule, il a fallu commencer par la rééducation respiratoire, vous ne pouviez vraiment rien faire, il fallait réapprendre à respirer.
Ben, c'est ça en fait, moi je suis atteint, alors j'ai le diaphragme qui fonctionne, mais pas de manière, complètement efficace, ce qui fait que... À titre d'info, maintenant, il me reste que la moitié de ma capacité pulmonaire, à peu près. Hein, voilà. Donc effectivement, au début, il faut réapprendre à faire bosser les poumons, la cage thoracique. Donc la musculation, on fait de la musculation en fait de tout ce qui est pulmonaire.
Oui.
En soufflant dans un appareil, en travaillant le souffle. Et ça, au début, c'est juste une séance de sport, c'est juste ça. Mais c'est très éprouvant, on s'en rend pas compte, mais... c'est très éprouvant, ouais.
Oui, effectivement, mais souffler, c'est éprouvant, c'est fatigant.
Et surtout quand ça marche plus bien, c'est encore pire.
Ouais, ouais. Alors, vous avez eu cette rééducation, vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire physiquement et ne pas faire?
Alors moi, aujourd'hui, donc mes jambes ne fonctionnent plus. Donc il y a deux volets, il y a le volet sensibilité, le volet mobilité. Le volet sensibilité est... plus ou moins le même que ce que je peux bouger ou plus bouger, voilà, avec quelques petites différences. Donc je ne sens pas sur, on va dire, 85% de mon corps. Néanmoins, je ressens. Je ressens la douleur, je ressens quand quelque chose ne va pas. Mon corps me le fait ressentir autrement. Et après, au niveau fonctionnel, en fait, mes jambes ne fonctionnent plus. J'ai pas d'abdominaux, j'ai plus de pectoraux, j'ai que le grand pectoral, donc c'est le muscle qui relie la poitrine au bras. Et après, au niveau de mes bras, donc j'ai les épaules qui sont fonctionnelles, les biceps, l'intérieur de l'avant-bras. Et après, tout le reste, donc mes poignets fonctionnent. Par contre, mes doigts, eux, je n'arrive plus à les bouger. Sur l'avant-bras, c'est pareil, j'ai plus de muscles. Et au niveau donc, du triceps, il est ce qu'on appelle fonctionnel, mais sans effort. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de force avec. J'arrive à lever mon coude, enfin lever mon avant-bras, c'est pour ça qu'on dit qu'il est fonctionnel, mais je ne peux pas le muscler. Il ne fonctionne plus contre résistance.
Oui. Voilà. Ouais. Et alors, vous pouvez manger seul, mais avec un appareil adapté à votre bras. Enfin, vous pouvez pousser votre fauteuil tout seul. Hein,
voilà, c'est ça. En fait, j'ai la capacité d'être en fauteuil manuel. Voilà, même si, attention, dès qu'il y a un peu de dénivelé, ça devient plus compliqué. Dès qu'il y a des marches à monter, c'est plus compliqué aussi. Voilà, donc il y a des moments où j'utilise une petite assistance électrique quand je sais que je vais faire beaucoup de route ou que c'est un peu chaotique. Et puis après, bah, pour tout le reste, en fait, on découvre vite qu'avec le handicap, il faut s'adapter et adapter l'environnement. Donc c'est pour ça que maintenant, oui, je peux manger, préparer à manger, me raser et autres. J'ai adapté en fait tout ce qui existe pour le rendre accessible à mon handicap.
Oui, voilà. Et donc vous parlez de beaucoup de choses dans votre livre. Alors, il y a des achats très onéreux. Il fallait un lit médicalisé, un lit de douche. J'imagine qu'il fallait refaire un petit peu l'appartement pour avoir une douche adaptée. Ah, tout ça, ça coûte très très cher, sans parler de la voiture accessible. Il y a une association qui se crée pour vous aider à côté. Mais comment vous auriez pu faire si vous n'aviez pas eu ces fonds, cette aide très généreuse pour acheter tout ça?
Eh bien, malheureusement, j'aurais fait comme beaucoup de personnes font en France à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, effectivement, la première prise en charge qu'on a, donc, c'est la sécurité sociale. Derrière, si vous avez une mutuelle et que vous avez pris l'option handicap, parce que c'est une option, hein, et donc vous payez beaucoup plus cher pour, vous pouvez avoir des fonds. Ensuite, on a ce qu'on appelle le troisième volet, c'est la maison départementale des personnes handicapées, donc plus connue sous le nom de MDPH. La MDPH qui est le seul organisme qui donne de l'argent pour financer en dehors de la Sécu. Donc souvent, on a l'habitude de critiquer la maison départementale du handicap parce que les délais sont très très longs pour obtenir de l'argent. Souvent, on n'a bien sûr pas ce qu'on voulait. Et malheureusement, moi, j'aime pas tirer sur l'ambulance. Ce sont les seuls qui nous viennent en aide. Donc, donc voilà. Et après, il y a un dernier organisme qui est l'AGFIP, ou le FIPHFP, c'est pour la fonction publique. C'est un organisme qui vous vient en aide quand vous travaillez et qui peut fournir de l'argent pour tout ce qui va vous servir à aller travailler. Par exemple, la voiture, par exemple, le fauteuil roulant, le matériel et autres. Voilà.
Oui.
Et en fait, bah, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais fait des dossiers auprès de toutes ces personnes.
Mais vous auriez attendu, vous auriez
On attend, c'est extrêmement long. Et c'est extrêmement long. Et surtout, le problème, c'est que dans tout ça, ne rendent pas en compte les loisirs, ne rendent pas en compte le sport. Savoir que pour voyager, il y a un surcoût. Pour faire du sport, il y a un énorme surcoût. Et que quand on n'a pas, quand on peut pas se payer tout ça, on fait rien finalement.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc merci l'association qui s'est créée parce que moi, ils m'ont permis de tout financer, vraiment de tout financer de A à Z, que ce soit du vital, comme un fauteuil de douche pour aller aux toilettes qui n'est pas remboursé, faut le savoir quand même. Mon fauteuil de tous les jours. Mais aussi du matériel sportif et de loisirs.
Oui, alors on ne va pas raconter, mais dans votre livre, vous expliquez que vous avez fait de la compétition, vous le décrivez, vous essayez de faire beaucoup de choses, forcément, et puis vous avez repris le travail. Et alors vous étiez pompier, vous partiez en action sur le terrain, là c'était plus possible, mais vous vouliez vraiment redevenir pompier et vous avez quand même trouvé un poste qui est dans l'action.
C'est ça, en fait j'ai eu la chance encore une fois d'être dans le monde des pompiers. Qui est une grande famille et qui l'a prouvé encore avec mon histoire.
Qui vous ont beaucoup soutenu, oui.
Qui m'ont énormément soutenu, qui m'ont énormément apporté, qui m'apportent encore énormément aujourd'hui. Faut savoir que très rapidement, j'ai mon directeur départemental de l'époque qui est venu me voir et qui m'a dit « Écoute Romain, apaise-toi avec le travail, on va te garder. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas encore où on va te mettre, mais ne t'inquiète pas, on te garde. » À partir du moment où j'ai su ça, je me suis dit « Ouf, voilà. » On m'a retiré cette charge-là et voilà, ça je sais que je gagnerai ma vie grâce à mon argent, grâce à mon travail et malgré mon handicap. Et ça déjà, c'était salvateur pour moi à l'époque de savoir ça. Mais oui, c'est important de le dire que être en situation de handicap, à partir du moment où on adapte le poste de travail, la personne, elle a beau avoir un problème au niveau de ses mains, avoir qu'une seule jambe, Ça change en rien, en fait, sa capacité et ses facultés d'être doué dans son travail, tout simplement.
Mais vous racontez les préjugés, alors on va pas s'étaler, mais quand même, vous avez surpris le responsable qui vous encadrait. Lui pensait que vous étiez en fauteuil, donc forcément le cerveau était atteint aussi.
Ouais, c'est ça. C'est ça de l'extérieur, je pense qu'encore, alors, en plus, il faut savoir que nous, en fauteuil, on représente seulement 1% de tous les handicaps, mais j'ai l'impression que peu importe le handicap, il est encore stigmatisé beaucoup dans le monde de l'entreprise. C'est peut-être un des endroits, je pense, où il est le plus compliqué parce qu'un patron va se dire effectivement, ouais, bah, il est en situation de handicap, le pauvre, il va pas avoir le temps, il va être
pas
tout le temps
malade, chose,
il va être en retard, il va avoir des problèmes de santé. Mais non, pas du tout. On est des travailleurs comme tout le monde. Comme tout le monde, on fait le boulot, peut-être parfois avec plus d'envie, peut-être plus de... Justement, le besoin de prouver qu'on peut le faire. Et c'est là où c'est dommage et j'ai envie de passer ce message-là aux entreprises. Surtout, n'ayez pas peur. Au contraire, vous allez voir avoir quelqu'un en situation de handicap dans son entreprise. Je pense que ça fait du bien à tout le monde et à tous les salariés, vraiment.
Oui. Et donc, on encourage non seulement les personnes en situation de handicap à aller travailler, à se lancer, même si c'est dur, même s'il y a beaucoup de résistance.
Ouais.
Et puis, les employeurs à employer.
Exactement. Ouais, je pense que faut... Les personnes en situation de handicap, elles savent qu'elles ont des compétences entre les mains. C'est juste, il faut juste lui faire confiance à cette personne, lui donner le matériel dont elle a besoin, matériel qui, au passage, est pris en charge en plus
par la GFIP.
Donc en plus, j'ai envie de dire, c'est quasiment à chaque fois une opération vierge, voire même l'entreprise va économiser de l'argent, puisque si elle n'emploie pas une personne en situation de handicap, elle paye des amendes. Faut savoir que voilà, c'est à partir du moment où elle commence à faire travailler quelqu'un, elle a des réductions de ses amendes. Je pense que tout le monde y est gagnant, vraiment, sincèrement. De mon expérience et de l'expérience des gens que je vois autour de moi, je pense vraiment que tout le monde y sera gagnant. Le travailleur en situation de handicap et l'employé. Les messieurs, dames en situation de handicap, foncez, allez montrer ce que vous savez faire. Et puis, messieurs, dames, les employeurs, ouvrez grand vos portes, on est là pour travailler.
Oui. Romain, vous restez avec nous. Oui. Je rappelle que vous sortez Et pourtant ça roule aux éditions du Rocher sous le nom de Roro le Costaud. On va continuer à parler de votre parcours juste après une pause musicale.
Vivre FM, la radio de toutes les différences.
Et je le pense immense, le jour idéal. Je joue dans tous les sens, la grande scène finale. C'est là notre conscience, tout en prudence, qui nous pousse à s'enfuir. Pourtant je sais qu'au fond, le futur est à moi. Le hasard sans raison, bien sûr que je n'y crois pas. Au diable les pardons, je hausse le ton et me pousse à tenir. Hello.
Juin, le duo.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Nous sommes toujours avec Romain Diroro, le costaud, qui sort son livre Et pourtant ça roule aux éditions du Rocher. Alors Romain, vous racontiez votre parcours. Vous avez repris le travail après votre accident, après être devenu tétraplégique. Vous étiez pompier sur le terrain et là vous êtes en centre d'appel. C'est-à-dire que c'est un boulot qui... Enfin, faut aller vite quoi.
Mais c'est ça. Et en fait, c'est là au début où il y a eu les plus gros préjugés, c'est de se dire, mais attends, est-ce que avec malgré tes doigts qui fonctionnent pas, tu vas arriver à prendre un appel rapidement? Mais bien sûr, parce que le logiciel est adapté, le logiciel il est intuitif, donc ça s'est fait très facilement. Et j'étais content parce que là où avant, en tant que pompier, c'est un poste qui m'intéressait pas du tout, parce que pour moi, ça m'éloignait du terrain. Et aujourd'hui, je travaille à l'endroit qui me rapproche le plus du terrain.
Oui, c'est ça.
Et finalement, je suis content parce que je continue à faire mon travail, c'est-à-dire apporter mon aide aux autres, arriver peut-être à aider les autres. Mais c'est juste que c'est la manière qui a changé. Mais finalement, la manière et puis l'ordre dans la chaîne des secours, en fait, finalement. Je me retrouve un maillon avant,
ouais.
dans le maillon de celui qui va...
C'est vous qui déclenchez tout, en fait.
Mais c'est ça, en fait. Et j'ai découvert que ce métier d'opérateur, il est hyper, hyper important. C'est un métier peut-être qui n'est pas assez connu dans tous les reportages qu'on voit chez les pompiers. Parce que finalement, sans cet opérateur et sans son jugé téléphonique, parce que on est les voilà, il faut arriver à travers un appel à apprécier la situation. Et c'est un métier qui est vraiment très très important et vraiment que j'adore maintenant. Et je me vois pas arrêter un jour d'ailleurs.
Oui. Oui. Alors vous gérez ce métier de pompier, donc en centre d'appel, opérateur. Vous avez votre fille aussi qui grandit et vous êtes célibataire aujourd'hui, donc elle est en garde chez vous de temps en temps, enfin régulièrement. Donc il faut quand même que vous y consacriez beaucoup de temps. Et puis il y a les réseaux sociaux, vous passez aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Vous faites comment pour gérer tout ça?
C'est du sport.
Oui.
Non, c'est une sacrée organisation. Après, c'est marrant, j'en ai parlé hier soir justement à mes abonnés, où je disais qu'en fait, ce qui compte maintenant, c'est... Parfois, on se dit, j'ai pas le temps de faire ça. Et en fait, il faut se dire clairement, est-ce que c'est quelque chose qui me tient à cœur? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi? Si c'est important pour moi, il faut peut-être que je dégage du temps sur quelque chose de moins important ou que j'ai plus envie de faire. Pour faire cela, même si c'est quelque chose que je fais depuis des années, finalement par habitude, mais finalement si j'ai plus envie de le faire, pourquoi je continue? Et moi je vis comme ça maintenant, et alors c'est une sacrée organisation, Mais voilà, je me suis mis mes priorités. Ma priorité une, c'est ma fille. Ça oui. passera toujours avant tout.
Logiquement, oui.
Voilà, ça sera toujours. Elle passera en premier lieu, avant tout, avant le travail, avant les réseaux sociaux, avant tout. Voilà. Et une fois que, voilà, je sais que ma fille, c'est bon. Je m'occupe du reste. J'ai mon travail, j'ai les réseaux sociaux, effectivement. D'autres projets un peu qui arrivent, bah, comme par exemple ce livre. Voilà.
Ce livre, oui. Vous l'avez écrit tout seul ?
Non, alors je l'ai coécrit avec Anne Leblay. On a travaillé ensemble pendant quelques mois.
Oui.
Mais c'est vrai qu'au début de ma rééducation, juste en sortant de rééducation, j'ai commencé à écrire tout seul. Et à l'époque, j'ai tout perdu en fait. J'ai perdu parce que mon ordinateur a planté. Et pendant très longtemps, je me suis dit, je veux écrire. Je veux continuer à faire ce que j'ai fait en sortant de rééducation. J'ai des choses à dire et j'ai envie de l'écrire. Et pendant très longtemps, je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Et un jour, dans mes abonnés, j'avais Agnès, mon éditrice, qui m'a écrit en me disant « Mais Romain, tout ce que tu écris là, sur les réseaux, là, pourquoi on l'écrit ? Pourquoi tu as déjà pensé à l'écrire dans un livre ?» Et je lui ai dit « Bah oui, j'ai déjà pensé. Bah, » Il dit « Est-ce qu'on ne vivrait pas cette aventure ensemble ?» Et j'ai dit « Je me suis dit, voilà, c'est un signe, il faut le faire, c'est maintenant. » Et je me suis lancé. Et là où je pensais ne jamais trouver le temps, bah finalement, le temps, je l'ai pris sur autre chose.
Oui.
Et je pense que ça, c'est important d'en prendre conscience, que quand on se dit on n'a pas le temps, bah, s'il faut le faire. Et faire les choses qu'on aime, c'est important parce que peut-être que demain, on ne pourra plus les faire.
Oui, oui.
Voilà.
Et vous avez des journées à rallonge, non vous,
ouais, par oui. contre, j'aimerais bien que mes journées fassent 28 ou 30 heures, c'est clair. Non, par contre, oui, je me lève à 6h30. Je me couche rarement avant minuit, ça c'est
oui.
clair.
Ouais, oui.
ouais. Et bah, y a le travail la journée. Le travail, le sport, j'essaye d'y aller entre midi et deux. Le soir, j'ai ma fille. Une fois qu'elle est couchée, bah, après, il y a tout le reste. Il y a la maison à s'occuper, la vie quotidienne. Plus, bah, voilà, tourner les vidéos, m'occuper des réseaux sociaux et autres. Et ça prend du temps.
Oui.
Mais bon, voilà.
Mais ça vous plaît.
Mais je
clairement, tout vous
voilà.
plaît dans ce que vous faites.
Si demain, ça ne me plaisait plus, j'arrêterais. Vraiment, très honnêtement, hein, j'adore ce que je fais aujourd'hui, mais je ne m'interdis pas demain peut-être d'arrêter parce que ça ne me plaît plus.
Voilà. Oui, oui. Mmh. Alors, si vous pouviez donner des conseils à des personnes qui se retrouvent dans votre situation soudainement, quels seraient-ils ?
Alors moi, principalement, la plus grosse chose à faire, si on se retrouve, que ce soit en situation de handicap, avec une maladie ou avec une situation qui change tout simplement, c'est l'acceptation. Il faut accepter que notre vie, notre quotidien va être différent de celui qu'il était d'avant. Le fait de ne pas accepter, on vit dans le déni, on vit dans cette vie qu'on avait avant, mais malheureusement qu'on ne pourra plus avoir. Et le fait de ne pas passer à autre chose, ça permet de ne pas avancer, et surtout, ça nous laisse dans cette vision qu'on avait de notre vie d'avant, qu'on ne peut plus avoir, et on se ferme à tout ce qu'on pourrait faire dorénavant. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire, ça c'est clair. Et surtout, on ne va pas chercher des solutions pour faire autrement. Donc le conseil principal, ça serait celui-là, ça serait accepter. Parce que accepter, attention, ça prend du temps, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça dépend. Il y a des gens pour qui c'est rapide, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus long. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire, il faut profiter. Il faut ouvrir les yeux, parce qu'aujourd'hui, on ne se rend plus compte au quotidien de tout ce qui nous entoure. De toutes ces petites choses auxquelles on ne faisait plus attention, peut-être. Je dis souvent, quand je fais des interventions dans les écoles, je dis aux enfants, les enfants... Qui ici a déjà râlé quand on lui a demandé d'aller courir dans la cour de l'école ? Tout le monde lève la main, ou à moins qu'il y en ait un ou deux qui disent rien, mais tout le monde lève la main. Et ben je leur dis, vous savez quoi les enfants ? Moi aussi, quand j'étais petit, je l'ai dit. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'aimerais être à votre place ? Alors c'est pas pour les faire culpabiliser, c'est juste pour leur faire comprendre que rendez-vous compte que vous avez de la chance de faire ça ou d'autres choses, et que le plaisir, il n'est pas toujours forcément dans le matériel.
Oui.
Alors, il y a un autre truc qui s'est invité dans nos vies et qui nous a permis aussi de relativiser, ça s'appelle le Covid. Et quand on a été confinés, tout le monde s'est rendu compte de tous les loisirs qu'on nous enlevait. Juste d'aller se balader, de pouvoir se promener, boire un café, etc. Et bien, c'est ce genre de petites choses, moi, que j'apprécie d'autant plus maintenant. Parce que pendant un moment, je ne pouvais plus les faire, ou parfois encore, je ne peux pas les faire parce que ce n'est pas accessible. Donc... voilà, ça c'est important aussi.
Oui, c'est très important. Et pourtant, ça roule, c'est votre livre, Édition du Rocher, qui vient de sortir, Roro le Costaud. Un dernier mot avant de conclure ?
Ben, un dernier mot, j'ai envie de dire, foncez lire mon livre. Voilà, j'ai envie de dire ça, foncez lire mon livre. Mon livre, je l'ai fait à l'image de mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai voulu parler du handicap sans tabou. J'ai voulu m'adresser aux personnes en situation de handicap, mais aussi à ceux qui ne sont pas en situation de handicap, parce que vraiment, je passe des messages qui, je l'espère, touchent tout le monde, c'est le but. Voilà, j'ai pas que des abonnés en situation de handicap, hein, clairement.
Bien sûr, vous en avez beaucoup. Donc,
ouais, et dans les lecteurs, c'est pareil, dans mes lecteurs, j'ai absolument pas que des personnes en situation de handicap. Et voilà, et je suis content parce que j'avais hâte qu'ils sortent pour avoir les retours de toutes ces personnes. Et je suis content parce que justement, les gens en apprennent plus sur moi, en apprennent plus sur le handicap et surtout me retrouvent. Et ça, c'est ce que je voulais, c'était pas avoir... je voulais pas me dénaturer dans un domaine que je ne connaissais absolument pas. Et je suis content puisqu'apparemment, on retrouve la même personne. Donc voilà, lisez mon livre, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et puis ensemble, on va faire bouger les choses.
Ouais,
voilà.
Et pourtant, ça roule. Roro Le Costaud aux éditions du Rocher. Merci à vous, Romain.
Merci à vous pour l'invitation. Merci d'être venu. C'était
chouette. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.